Rébène.
Le magazine qui explore,
qui voyage, qui découvre.
Des ribines un peu perchées aujourd'hui, nous allons habiter dans les arbres du côté de Saint-Goisec chez Écolo Braise. Alors Écolo Braise, on devine un peu qu'il est question d'écologie de Bretagne, ça c'est sûr. La Bretagne de l'intérieur des terres, le Finistère qui tutoie le Morbihan. Nous sommes dans les montagnes noires près de Châteauneuf-du-Fou, du canal de Nantes à Brest, du domaine de Trévarez. Et voici Patrick Arguarnic et Sandra Pierres que Sophie a rencontré.
Moi je m'appelle Patrick Arguarnic, j'habite à Saint-Goisec depuis 50 ans et je profite d'un site fabuleux dans une vallée qui est extraordinaire au bord de l'Aulne. Là, je suis en retraite depuis un moment et puis j'ai eu l'idée de faire profiter aux autres de ce site merveilleux, quoi. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant que d'autres personnes puissent venir le visiter. Et j'ai pensé aussi aux cabanes dans les arbres. On a créé une association et Sandra, qui est à côté de moi là, est la secrétaire et la permanente de l'association depuis l'année dernière.
Donc je me présente aussi, Sandra Pierres. Je suis arrivée ici en août dernier, effectivement. Je suis bretonne, mais j'étais dans la région de Rennes au préalable, depuis très longtemps. J'ai fait des études d'écologie à la base, et puis j'étais toujours très, très branchée sur l'écologie, et aussi d'autres sujets comme l'artisanat, la langue bretonne que j'ai apprise il y a 3 ans. Du coup, quand j'ai vu que Patrick cherchait quelqu'un de bretonnant lié à l'écologie, j'ai foncé, je suis venue ici, j'ai déménagé à Saint-Goisec pour en participer au projet.
Le cœur ou le symbole du projet est un peu comme un phare dans ce coin de campagne, la cabane dans les arbres. Enfin, quand on dit cabane...
C'était un rêve que moi j'avais et que j'ai exaucé en 2013 seulement. J'avais jamais même été dormir dans une cabane parce qu'il n'y en avait pas trop, mais là ça commence à fleurir un peu partout. J'ai donc été dormir dans une cabane qui... L'idée m'a bien plu, mais je me suis dit, je peux faire vraiment beaucoup mieux, quoi. Parce que c'était pas satisfaisant dans tous les domaines, surtout pas écologique, et là, c'était gênant. Et puis un peu trop, comment dire, c'était une cabane dans les arbres, mais tout était sur pilotis avec des sections de bois carrées, etc. Donc c'était pas drôle, quoi. Je trouvais pas ça sympa du tout. Donc je me suis dit, bon, un jour, je ferai des cabanes, et puis elles vont être mieux que ça, quoi.
Effectivement, il y a 2 magnifiques troncs au milieu de la maison.
Oui, 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 tout à fait. Et puis, d'autres troncs qui soutiennent... Les pilotis sont des troncs, en fait. C'est pas des sections de poutres carrées qui sortent de la scierie, quoi.
Ça s'intègre dans le paysage et on profite du paysage.
Voilà. En plus, avec un panorama incroyable sur les montagnes noires, sur le canal de Nantes à Brest.
Très vitré.
Voilà,
oui, oui.
Plein de lumière.
Grand, confortable.
Et tout équipé, cuisine, salle de bain, toilette.
3 chambres.
3 chambres.
Et 8 lits.
Et toute la place pour se déplacer en fauteuil roulant.
On en est à se demander si le terme de cabane est complètement adapté.
Effectivement, c'est une maison qui a une forme de grande cabane. Et surtout, elle est perchée dans les arbres, parce qu'elle est effectivement dans les arbres. Et elle est quand même à une dizaine de mètres au-dessus de la vallée. Et donc, il est effectivement accessible aux handicapés, puisqu'on a une rampe qui fait 40 mètres et qui a moins de 4% de pente, comme c'est la réglementation, et qui donc permet aux personnes à mobilité réduite d'accéder dans la cabane avec leur fauteuil et de circuler dedans. Donc, aussi bien de manger, puisque toutes les tables ont été faites à la bonne hauteur, les lits sont accessibles avec des fauteuils roulants, les toilettes,
tout
est fait pour que les fauteuils puissent accéder, qu'ils soient fauteuils électriques ou des petits fauteuils mécaniques à la main. Donc on peut accéder et circuler dans la cabane avec ces fauteuils-là.
Et donnez-nous envie, racontez-nous un tout petit peu où elle est, qu'est-ce qu'on voit du haut de la cabane.
Alors, une fois que vous serez monté par la rampe, vous arriverez donc dans la maison qui permet, comme on l'a dit, de vivre intégralement de A à Z à l'intérieur. Quand vous rentrez, vous avez donc sur la gauche les 2 chambres Et sur votre droite, vous arrivez dans le grand salon séjour. Et ce salon séjour est traversé par les deux arbres qui soutiennent en partie la cabane. Ce sont deux énormes chênes d'un diamètre assez important. Donc, ils traversent la cabane. Vous avez l'impression d'être... Vous vous sentez vraiment dans les arbres. Quand vous vous tournez sur la droite dans le salon, vous voyez une énorme baie vitrée. Et par cette baie vitrée, vous voyez la terrasse extérieure qui est couverte, où on peut donc déjeuner. Et derrière cette terrasse, vous avez la vision des montagnes noires et de la vallée de l'Aulne, avec le canal de Nantes à Brest qui s'écoule en bas. Donc on sait déjà que quand on sort, on peut aller se promener au bord du canal, entre autres. Même un jour de pluie, vous avez entièrement la lumière qui rentre dans la cabane, c'est très lumineux, à la fois très bien isolé, double vitrage, et vous avez toujours cette magnifique vue, qu'il fasse beau, qu'il fasse moins beau. Parfois, on a de la brume sur les montagnes noires, ça peut être très très beau aussi à voir. Voilà, vous avez aussi énormément d'oiseaux, une grande diversité de la faune et de la flore. Hein, donc, on peut observer vraiment, ça peut être les buses, les geais, les chardonnerets, les bouvreuils,
les pinsons,
les troglodytes, tout ce qui existe en Bretagne, vous les retrouvez ici. Les biches, les blaireaux, même des hermines, renards, j'ai vu des renards chassés en plein.
Et en fait, on a cette diversité aussi bien de la flore que de la faune, du fait de la proximité de 4000 hectares de forêt qui sont derrière nous, en fait. Quoi. C'est la forêt de Trévarès. Là, on a construit la première cabane, mais on en a d'autres. Il y a 4 autres cabanes qui se construisent. Et d'autres habitats insolites et écologiques, tels que des yourtes, des huttes celtiques ou des tipis.
Ça ressemble à quoi
une hutte celtique, ça ressemble à un tipi, sauf que les perches sont posées sur un cercle de pierre qui fait une trentaine de centimètres de hauteur. Et au lieu que ce soit de la toile ou des peaux de bête, la couverture sur les perches, eh bien, c'est du chaume. C'est des huttes en chaume. Tous les Celtes faisaient ce type de construction comme habitation. Alors, c'était durable, mais c'était également éphémère, puisque Yola sont naturels et putrécibles. Et si on abandonne une hutte celtique, au bout de quelques années ou quelques décennies, elle retourne à la nature complètement, quoi.
Le projet, on sent bien qu'il est plus construit que juste faire découvrir la vallée et faire des maisons dans les arbres.
Voilà,
oui, en fait, on a voulu faire un projet qui soit le plus global possible, c'est-à-dire que, bien sûr, il y a la vallée à découvrir, bien sûr, il y a les cabanes dans les arbres qui sont insolites et pas très très courantes, bien qu'il y en ait de plus en plus. Et nous, on a voulu rajouter à cela... Et Sandra a aussi une formation de ce côté-là, puisqu'on va faire de la permaculture. Et elle avait aussi travaillé dans ce domaine-là.
Surtout sur l'agriculture biologique. Donc j'ai eu des jardins en bio plusieurs fois.
Alors, quelle est la différence entre permaculture et agriculture biologique ?
Voilà. Là, c'est encore un autre stade. C'est-à-dire que moi, j'étais plutôt dans la bio. Mais là, je m'intéresse à ces méthodes qui font qu'on va essayer d'intervenir le moins possible sur l'environnement. Alors qu'en bio, par exemple, on peut retourner la terre, ça se fait de moins en moins, mais bon, on n'apporte pas d'intrants, de pesticides, d'engrais, etc., sauf d'origine biologique, mais il y avait le retourner la terre. Alors qu'en permaculture, on ne retourne pas la terre et on apporte des matières organiques qui vont s'entasser sur le sol et qui vont créer de l'humus. Et ça va favoriser la vie du sol, ça va faire venir plein de bêtes, les vers de terre, bien sûr, les cloportes, toutes sortes de bestioles qui vont fabriquer l'humus pour nous, en fait. Et à partir de là, on a un milieu qui va s'enrichir d'année en année, si on apporte du foin, des feuilles mortes, tout ce qu'on veut, et tout ce qui peut se décomposer. Et après, on va mettre en place nos cultures directement là-dedans, et on va essayer de faire des associations de plantes pour que les plantes s'entraident mutuellement et essayent de se protéger des ravageurs.
Le secret de la permaculture, c'est que ce soit le plus naturel possible, et à l'état naturel, les plantes, elles se choisissent, elles se côtoient et elles s'entraident. La permaculture, ce n'est pas d'hier, hein. Il y a des millénaires que ça se pratique, mais avec l'industrialisation et puis l'appât du gain, on a jeté ça aux orties, puisque justement, ça ne donnait pas assez de travail, et puis surtout pas de... On n'achetait plus d'engrais, plus de pesticides, etc. Donc, on a essayé d'occulter cette forme de maraîchage, alors qu'en fait, c'est celui qui serait le plus performant et qui permettrait de nourrir la planète, et non pas ceux qui sont en train de nous faire croire avec les OGM et compagnie. Et donc, nous, on veut faire, le faire pour nous déjà et le faire découvrir aux gens qui viennent visiter, quoi.
Parce que c'est possible de pratiquer la permaculture dans un jardin entre guillemets ordinaire, voilà, un potager ordinaire,
n'importe où. Même dans des terres très très arides.
Voilà, même dans parce que un jardin ordinaire, il faut de la terre qui soit facile à travailler, etc. Alors que là, ça peut être de la caillasse avec très peu de terre, puisque on apporte la matière organique. Et donc, ça peut pousser dans la caillasse. Quoi, et ça
mais il faut un certain temps pour lancer.
Enfin, oui, quelques mois ou quelques années.
Si
mais
la terre est difficile, plus, évidemment.
Mais,
années,
ça vient assez vite. Hein. Ouais. Et c'est beaucoup plus simple, ça demande beaucoup moins de travail. Il n'y a pas besoin de désherber, etc. On fait du paillage. Le paillage empêche les herbes de pousser trop. Et puis, on fait un petit trou dans le paillage, et puis on met ce qu'on veut. Et puis les autres plantes, naturellement, viennent s'associer et s'entraider. Donc c'est fabuleux, quoi.
Et il y a des gens qui ont gardé ce savoir-faire ou il y a des gens qui ont de nouveau
redécouvert, souvent, oui.
Réfléchi.
Beaucoup de créations de nouveau. Beaucoup de gens s'y mettent maintenant. C'est quelque chose qui se développe énormément.
Et moi, je fais souvent... je parle souvent d'un gars qui est autrichien et qui a découvert ça lui-même sans faire aucune étude. Tout petit, vers 4-5 ans, il faisait déjà des petits jardins, donc il était passionné à la base, quoi. Et il a observé la nature et il a réussi à la recopier. Et maintenant, ça devient un savant dans le domaine que le monde entier va visiter.
Voilà. C'est donc, Polzer,
ouais,
c'est ça.
C'est Zeph Polzer, ouais. Et donc, ce gars-là, qui était pris pour un luberlu au départ, eh ben, devient un savant qui est visité par des gens qui viennent voir comment il procède. Et lui, il a acheté... Ça fait pas longtemps sur ce terrain-là, il en a eu plein d'autres, mais c'était un terrain qui était relativement hostile, à 1500 mètres d'altitude, donc il neige presque la moitié de l'année, et il a des cerises pendant 5 mois de l'année, quoi. Donc il a réussi à faire des trucs extraordinaires en utilisant des rocailles, des mares pour capter la chaleur du soleil, etc. Enfin bon, plein de trucs super.
Beaucoup d'expérimentation pour arriver à ça. Oui. Puis choisir aussi les plantes qui correspondent au climat. Ça, c'est des années d'expérimentation, les espèces qui conviennent au climat. Pour chaque personne, ça va être différent.
La permaculture, c'est travailler avec la nature. Alors que la culture conventionnelle, l'agriculture conventionnelle, c'est travailler contre la nature. On l'empêche de pousser, on l'empêche d'avoir les vers de terre, les ceci, les cela, les moustiques, etc. Donc, au lieu de ça, en permaculture, on travaille avec. Pour vous donner un exemple, si on plante des soucis à côté des carottes, ben les soucis, eux, ont une odeur répulsive pour les mouches qui viennent pondre les vers dans les carottes et qui vont pourrir nos carottes. Bon, donc il suffit de mettre les soucis à côté et puis voilà, on n'a plus de soucis, quoi. Donc c'est simple comme tout, mais plein de bon sens, quoi.
Oui, de connaissances quand même.
Ce qui nous manque beaucoup le bon sens en ce moment.
Beaucoup observé.
Donc vous voulez faire une école de permaculture ?
Pas une école. Non, c'est pas une école. Nous, on va faire de la permaculture à notre manière, parce que chaque personne qui fait de la permaculture le fait à sa manière. Il y a pas une seule manière de faire de la permaculture. Et d'abord, la permaculture, ça veut pas dire seulement de jardiner. La permaculture, c'est de vivre en harmonie avec la nature, aussi bien sur le plan habitat que sur le plan du jardin, du potager et de la production de maraîchage et compagnie. La permaculture, en fait, c'est un état d'esprit, c'est une démarche où on travaille avec la nature au lieu de travailler contre. Et donc, ça va être notre démarche. Et on va le pratiquer aussi bien sur le plan du jardinage que sur le plan de la construction et puis du côtoiement des uns et des autres. Quoi.
Voilà. Puis on va profiter aussi de ce lieu où on a vraiment beaucoup de place pour faire des ateliers, des formations dans plusieurs domaines, sûrement sur la teinture végétale aussi, qui sera mon domaine aussi, sur lequel je travaille. Et c'est une autre façon de travailler avec la nature.
Avec
plaisir,
des plantes
de
sauvages.
Faire les choses soi-même.
Et voilà. On apprendra à fabriquer soi-même
voilà,
ces teintures.
Voilà, voilà. Je travaille là-dessus personnellement et quand le moment sera venu,
il y aura des stages d'initiation.
Il y a la place, on pourra faire des stages.
Et puis il y a bien sûr la construction écologique, puisque tous les habitats écologiques qui vont être construits sur ce site, tous les habitats insolites, je veux dire, sont impérativement écologiques, évidemment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'écologie, c'est pas venu non plus comme ça. Tout ce qui se fabriquait avant l'ère industrielle, c'est-à-dire il y a deux siècles, était écologique. Tout était naturel, tout était propre.
Je dirais même un siècle.
Plus, parce que bon, à partir du 19e, ils ont commencé à semer leurs zones, puis bon. Et puis, il y a eu l'appât du gain, tout était mené par le business. Et donc, là, on a oublié beaucoup de choses élémentaires et évidentes. Pour vous donner un seul exemple, moi, quand je suis arrivé ici en 65, la maison, elle était complètement en ruine. Il n'y avait plus de toit. Il y avait des arbres qui poussaient de 5 cm de diamètre au milieu de la maison. Mais quand je l'ai remonté avec de la terre, avec de la glaise. Puis les gens venaient me voir, puis ils disaient, mais... tu sors d'où, là? On a inventé le ciment depuis, tu vois? Bon, j'ai dit oui, on a inventé le ciment, mais c'est une belle saloperie, le ciment. C'est très, très négatif pour construire des maisons d'habitation. Le ciment, c'est bien pour faire le pont de Millau. C'est sûr qu'on ne va pas le faire avec de la chaux ou de la terre glaise, mais c'est absolument négatif pour des maisons, parce que c'est étanche, parce que ça dégage des polluants, etc., en séchant. Et donc, voilà, bon, la terre glaise, elle a été complètement occultée parce que elle était gratuite. Donc, il n'y avait pas moyen de se faire du pognon dessus, quoi. On ne pouvait pas faire du business avec la terre. Donc, pas bon. Alors, on a raconté que la terre, c'était nul, alors que la terre, il y a encore la moitié à peu près des habitats actuels au monde qui sont faits en terre. Parce que toutes les civilisations ont utilisé la terre glaise pour faire leurs habitats, que ce soit des huttes, que ce soit des... Il y a même des HLM en terre et en bois au Yémen qui ont 6 siècles et qui sont encore debout parce qu'ils sont très bien faits, malgré les séismes qu'il y a dans cette région-là. Ils tiennent mieux que des trucs qui seraient faits en béton armé, quoi. Voilà. On pourrait parler des heures là-dessus.
Et donc, voilà, on pourra... entre guillemets, alors là j'ai entendu, c'est pas une école, mais donc on pourra
découvrir.
Un lieu de transmission,
de découverte et de transmission,
voilà,
donc, autant sur la culture, l'habitat, et donc j'avais entendu aussi le vivre ensemble,
tout à fait.
La santé, les cosmétiques, à faire soi-même.
Parce qu'on aura des interventions de personnes qui sont spécialisées dans certains domaines, et qui viendront ponctuellement faire des stages de formation ou des conférences. Et donc, on accueillera ces gens-là, qui viendront faire découvrir d'une part, et puis ensuite, eh bien, si les gens veulent approfondir leurs connaissances dans ce domaine-là, pourront faire une initiation donc de quelques jours, ou une formation de quelques mois, voire une année.
Oui, donc c'est vraiment des formations.
Oui, oui, des formations.
Pour acquérir presque un métier. Enfin,
tout à fait.
On
n'est
pas
absolument
sur de la
culture générale.
C'est
pas presque un métier, c'est un
acquérir
métier.
Acquérir un métier. Oui,
carrément. Parce que, en fait, les gens pensent que la construction écologique, par exemple, elle est assez proche de la construction conventionnelle. Et ben, moi, je les détrompe tout de suite en leur disant. La construction écologique, elle n'est pas un peu différente de la construction conventionnelle, elle est juste le contraire. Et je donne cet exemple, bon, pour vous en donner un, par exemple, ben, en France, tous les matériaux de construction doivent être impérativement étanches, et nous, tous nos matériaux doivent être perspirants, c'est-à-dire que tout doit respirer. Vous voyez ? Bon, ça c'est un exemple, j'en ai sept qui sont très précis, et puis il y en a plein d'autres qui sont adjacents, quoi.
Et vous-même, comment avez-vous appris ?
Alors, ça c'est une grande question. En fait, moi, quand j'ai voulu apprendre la bioconstruction, à l'époque, le terme n'existait pas puisqu'on l'a créé en 2000, l'éco-habitat, si vous voulez, n'existait pas non plus. Et puis quand vous parlez d'écologie, déjà, on vous riait à la gueule. Quand, en 65, un écolo, c'était un clodo, quoi. Bon. Et donc, comme il n'y avait aucune école, ni en Bretagne, ni en France, que je n'avais pas les moyens d'aller à l'étranger, et puis que je n'étais pas sûr d'en trouver non plus, eh bien, j'ai fait une étude personnelle, en décidant d'étudier ce qui existait. Et comme je vous dis, tous les bâtiments qui sont antérieurs au 18e sont écologiques. Ils ont été bâtis de manière écologique, avec des matériaux locaux, avec des matériaux naturels et puis des techniques locales. C'est ce qu'on appelle l'architecture vernaculaire. Et donc, j'ai décidé d'étudier cette architecture-là en cherchant ma maison. J'ai mis 3 ans à trouver ma maison ici.
Donc, c'était
celle-ci. Et j'étais très difficile. J'avais une grille très, très exigeante. Voilà. Et donc... j'ai vu des centaines de maisons et de manoirs, de châteaux, et j'étudiais à chaque fois que j'allais les visiter. Je prenais des notes, des mesures, l'épaisseur des murs, la manière dont étaient faits les linteaux en pierre, etc., les empoutrements. Et donc j'ai pris des notes sur tout ça, et j'ai fini par acquérir, accumuler des connaissances, si vous voulez. Et donc c'est avec ces connaissances-là que j'ai démarré mon activité de restaurateur du patrimoine en 70, c'est-à-dire 5 ans après. Quoi. Donc 9 ans après avoir commencé mon étude et 5 ans après avoir fait ma maison. Parce que d'abord, j'ai mis en pratique ce que j'avais collecté. Okay. Et ensuite, j'avais pas l'intention de commencer si vite que ça, mais il y a des gens qui... Parce que... Ça a très vite fait du bruit que je restaure ma maison avec de la terre et des manières écolo. Et donc, il y avait tout un tas de gens qui méprisaient un peu cette démarche. Mais il y en a certains qui étaient très intéressés parce qu'ils recherchaient ce genre de choses. Ils ne le trouvaient pas, puisque j'étais à l'époque dans les premiers à faire de la restauration saine, quoi. C'est comme ça que j'appelais ça à l'époque. Parce qu'on ne parlait pas de bioconstruction. Le terme, on l'a choisi quand on a créé la Fédération de la bioconstruction en 2000. Et puis donc, voilà. C'est comme ça que j'ai appris, d'une part en faisant une étude comparative de tout ce qui se faisait, mais ensuite en le pratiquant sur ma maison. Certaines personnes qui sont venues voir cette maison où l'autre il était fou, il était en train de remonter ses murs avec de la terre, m'ont commandé des chantiers en me disant « quand vous aurez fini votre maison, je voudrais que vous veniez travailler chez moi parce que c'est comme ça que je
veux moi aussi. »
Voilà, et je travaille encore avec des gens qui à cette époque-là m'ont commandé leur chantier. Puisque, bon, à chaque fois qu'ils ont des travaux à faire, ils m'appellent pour continuer. Parce que je suis en retraite, mais je continue à avoir mon activité d'entreprise. Quoi. Voilà.
Et vous transmettez.
Voilà, tout à fait. Je fais de la formation permanente. Hein, en permanence, tous les gens que j'embauche sont des gens qui connaissent rien ou pas grand-chose. Je ne veux pas de personnes qui ont été formées dans le conventionnel, parce que... Il faudrait qu'elles désapprennent. C'est encore plus compliqué que d'apprendre quelque chose. Donc, je prends des gens qui ne savent rien. Et puis, au bout d'un an ou deux, ils s'installent à leur compte ou bien ils vont employer dans d'autres entreprises, etc.
Donc, l'association, ça vous sert entre autres à cela?
Voilà, entre autres.
À embaucher des gens qui vont se former à toutes les techniques
conformes pour faire les cabanes en ce moment. et qui n'avait aucune formation dans ce domaine-là. Et donc, à la sortie, dans un an ou deux, ils auront une bonne formation.
Vous retrouvez bien sûr toutes les informations sur le site internet d'Ecolo Braise et les références sont elles-mêmes sur le site web de la radio.